Maxime Maury, Economica.
Jacques Lavergne, bonjour. Bonjour.
Dire la vérité.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, heureux de vous retrouver, bien sûr Maxime. Hier nous étions en studio, aujourd'hui nous sommes revenus à un système, nous ne sommes pas en présentiel, mais nous allons quand même aller au bout de ce nouveau numéro d'Economica que nous allons commencer traditionnellement par la citation ou les citations du jour. Alors je vous livre la mienne. Le demi-savoir triomphe plus facilement que le savoir complet. Il voit les choses plus simples qu'elles ne sont et par là en donne une idée plus compréhensive et plus convaincante. C'est de Friedrich Nietzsche. Ça ne vous étonnera pas et c'est une citation qui me semble être particulièrement d'actualité, Maxime.
Bon, la mienne va être beaucoup plus terre à terre et va introduire l'introduction qui va suivre. Ce virus est diabolique. Est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Je ne pense pas que ces mutations soient le fait du hasard. Et c'est signé Jean-François Delfraissy, président du comité scientifique.
Voilà, celui-là, j'aurais pu le trouver. Bien, écoutez, nous démarrons dans le dur. Alors, nous allons parler, bien sûr.
Vous me permettez, Jacques, juste un petit mot pour expliquer pourquoi le professeur Delfraissy dit ça. Très simplement, il a observé qu'à Manaus, au Brésil, l'immunité collective a été atteinte à 70% et que c'est à ce moment-là que le virus a muté pour donner ce que nous appelons la souche brésilienne qui est présente sur notre territoire. Et donc, c'est pas, et il dit qu'on peut faire le même raisonnement pour le Cap en Afrique du Sud avec un taux d'immunité de 50%. Le virus mute pour contrer l'immunité.
Bien. Thème du jour comme d'habitude, situation économique et sanitaire de la France en introduction. Nous parlerons dans le sujet, le corps du sujet, des pièges, des mots pipés, comme l'a ainsi défini Maxime Maury, dette, inflation, croissance, qui nous masque la réalité. Nous parlerons également de la situation italienne et surtout de son nouveau, j'allais dire Premier ministre, mais c'est plutôt président du Conseil qu'il faut dire pour l'Italie, Mario Draghi. Oui. Mais auparavant, quelques brèves dont je vais me charger. La première concerne Total. Vous savez qu'à l'horizon 2030, Total aura ramené, c'est tout au moins le plan qu'il s'est fixé, sa part de vente d'hydrocarbures à 30% de ses activités et il vise la neutralité carbone en 2050. Alors, il surfe, comme l'on dit, sur la vague verte, mais surtout, le pétrolier voudrait devenir une major de l'électricité et des énergies renouvelables. Et il s'est rebaptisé d'ailleurs Total Énergie. Alors, ce n'est pas certainement par pure conviction qu'il milite désormais pour une planète décarbonée. Le groupe qui est issu de la fusion avec elle fait davantage mieux aujourd'hui par l'urgence financière que par l'urgence climatique. L'effondrement des prix du Brent, les projets d'exploration, production au sein des zones difficiles deviennent de moins en moins rentables. Les investisseurs aujourd'hui prennent en considération les risques climatiques, certains menacés de déserter. Donc Total a préféré suivre les exemples de ses camarades étrangers, à commencer par l'Italien Enel, l'Espagnol Iberdrola et puis surtout du Danois Ørsted, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a totalement abandonné, lui, le pétrole depuis 2018 pour devenir un leader mondial de l'italien offshore, de l'éolien, pardon, pas de l'italien, nous y viendrons tout à l'heure, Italie, de l'éolien offshore. Et les cours de bourse, effectivement, traduisent cet abandon de la recherche pétrolière. Alors, le PDG d'Elf, à côté, qui, lui, dont le métier est de produire de l'électricité, n'en est pas très content. Et lorsqu'il est allé défendre son projet Hercule, peut-être qu'il faudra un jour, Maxime, parler de ce projet Hercule, qui est très, très controversé, qui consiste à introduire des scissions au sein d'EDF, eh bien, il s'est plaint amèrement, M. Lévy, que les majors pétrolières aillent sur son terrain, parce qu'eux sont infiniment plus riches que lui. Total peut investir, par exemple, 6 milliards d'euros chaque année sur 10 ans, et EDF ne dépassera jamais les 2 milliards. Donc là aussi, nous risquons d'avoir dans deux compagnies françaises des batailles qui ne sont peut-être pas les bienvenues. Pas de commentaires, Maxime ?
Une réaction très brève. On avait déjà évoqué ce sujet ensemble à la fin 2019. Finalement, Total nous dit « Un jour, je ne serai plus un pétrolier. » Et « Un jour, je ne serai plus un pétrolier » parce qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, ou très peu. Donc, bravo à Total de déprécier ses actifs pétroliers pour préparer l'avenir.
C'est effectivement de saine gestion. Alors, le prix du vaccin, ben vous savez combien ça coûte, un vaccin. Mais il a un deuxième prix qui a été pointé par l'assureur Allianz, qui est le premier assureur européen, et qui a noté que les 5 semaines de retard déjà cumulées par l'Union européenne sur son programme de vaccination allaient coûter 90 milliards, une somme assez considérable. Il précise que chaque semaine de réduction de l'activité économique diminue de 0,4% le PIB des 27 pays de l'UE. Donc un manque à gagner finalement sur 5 semaines qui va être égal à ce que chacun de ces pays recevra au titre du plan de relance européen. Et Allianz souligne que, et là vous me rejoindrez Maxime, que les pays qui ont pris une longueur d'avance dans la vaccination, alors c'est Israël, c'est la Grande-Bretagne, ce sont les États-Unis, eh bien ils vont bénéficier d'un retour à la normale beaucoup plus rapide et donc de performances économiques supérieures à celles des retardataires.
Bien sûr.
Et après, juste une mention un peu inquiétante quand même pour l'État, c'est l'épidémie de consultants que l'on a vu dans un certain nombre de ministères. Ça coûte cher, tous ces gens qui viennent vendre leurs services, et singulièrement au ministère de la Santé, où on a vu le cabinet McKinsey qui est intervenu. Alors au départ, Olivier Véran a dit non, il n'y a que 4 cabinets de consultants. En réalité, il y en a 7 pour un total de 28 contrats depuis le mois de mars, et on le sait grâce à la députée Véronique Louwagie, qui est LR et qui a demandé au ministère la communication de toutes les commandes avant de les présenter en commission des finances. Donc McKinsey, je peux vous le dire, nous a déjà coûté 4 millions et les sénateurs ont été un peu quand même effarés de ce qu'ils ont vu, et les députés aussi, et Madame Louwagie a dit « mais que se passe-t-il ? L'État ne sait plus faire seul », ce qui est quand même assez inquiétant compte tenu que nous avons… Alors, je ne sais pas, nous avons des hauts fonctionnaires extrêmement compétents. Je ne sais pas si l'État ne sait plus faire seul ou si on ne fait pas confiance à ses piliers de la haute fonction publique. C'est une question qu'il faudrait poser.
Oui, moi, le chiffre que j'ai, Jacques, pour le ministère de la Santé, c'est 1 million d'euros par mois de consultations extérieures. Le principal consultant étant McKinsey. 1 million d'euros par mois.
Quelque chose tout à fait. Ce n'est pas tellement le prix, moi, qui me choque, c'est que. Que font les gens, cette haute fonction publique que le monde entier, paraît-il, nous envie, pourquoi ne les utilisons pas, quoi sont-ils payés? Moi, pour en avoir rencontré un certain nombre, je peux attester qu'il y a de réelles compétences de très haut niveau. C'est absolument ahurissant qu'on fasse appel à des cabinets de consultants que j'ai aussi par ailleurs bien connus et dont je me suis toujours interrogé sur leur valeur ajoutée.
Mais c'est bon, c'est-à-dire que notre État ne fonctionne plus correctement. Voilà. Bon, mais ça demanderait plusieurs émissions. Bon, voulez-vous qu'on parle de la crise sanitaire pour changer ? Mais moi, je vais m'effacer ce matin devant des gens qui sont beaucoup plus courageux que moi. Je voudrais m'effacer derrière les économistes Patrick Artus et Philippe Aguillon, qui viennent de publier une tribune dans Le Monde pour dire « la France n'a pas de stratégie sanitaire » et il propose la stratégie zéro Covid. Je voudrais m'effacer derrière l'ancien ministre de la Santé, Douste Blasi, qui a publié une tribune dans le JDD de dimanche pour dire la même chose. Et je voudrais m'effacer derrière Madame Hill, épidémiologiste, qui dit exactement la même chose que les 3 précédents. Alors, la meilleure façon de s'effacer, c'est de lire ce qu'ils écrivent. Rassurez-vous, c'est court, ça fait 20 lignes. Patrick Artus, dans Natixis, a l'habitude d'être très synthétique. Écoutons-le. De nombreux pays ont mis en place la stratégie zéro Covid. Chine, Australie, Cambodge, Islande, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Vietnam, Japon, Corée, Laos, Thaïlande. Cette stratégie est connue, confinement très strict, amenant les cas de Covid à un chiffre très faible, puis capacité à tester, tracer, isoler le petit nombre de cas qui réapparaît. C'était la stratégie qui avait été définie en France par le président de la République fin octobre. Nous devions descendre à 5 000 contaminations par jour. Nous sommes actuellement à plus de 20 000. Et à partir de là, nous devions reprendre la main sur le virus. Artus nous dit « Cette stratégie est très différente de celle des pays européens qui utilisent le stop and go. » Stop and go, c'est alternance de périodes avec de fortes restrictions sanitaires et des périodes avec de faibles restrictions pour maintenir le nombre de cas à un niveau acceptable mais toujours élevé. Et donc, c'est cette stratégie de stop and go qu'Artus et Aguillon critiquent, condamnent d'ailleurs dans leur tribune au Monde. Et il conclut, on pense souvent que le choix des pays européens vient du coût élevé, économique et social, sinon politique, de la stratégie zéro Covid, mais en réalité, le coût de cette stratégie est bien plus faible que celui de la stratégie européenne. Le plus souvent, les contraintes sanitaires sont faibles, la vie des habitants des pays qui pratiquent le zéro Covid est presque normale, l'économie de ces pays est sortie de la crise beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de dégâts que celle des pays européens. Le nombre de morts dus à la Covid est faible, il faut que l'Europe aujourd'hui réfléchisse à cette stratégie zéro Covid. Et vous avez un lien direct avec la citation du professeur Delfrécy avec laquelle j'ai ouvert l'émission de mon côté, parce que à partir du moment où le virus mute pour s'adapter à nos stratégies et les contourner, la stratégie vivre avec le virus est totalement défaillante. Elle est totalement défaillante parce que, regardez ce qui se passe actuellement. Actuellement, à l'heure où nous parlons, la souche anglaise qui cède au vaccin représente à peu près 50% de la circulation. Au début janvier, c'était 5%. Mais derrière cette souche, il y a la brésilienne et la sud-africaine qui représentent actuellement 5% et qui, elles, résistent au vaccin. Si demain, elles atteignent 50% et puis 100%, toute notre campagne de vaccination va s'effondrer. Et il faudra réinventer de nouveaux vaccins. Il faudra dire à Morissette et à nos parents, parce que ma maman s'est fait vacciner comme votre papa, 92 ans, il faudra leur expliquer qu'il faut recommencer et tout sera à refaire. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de scientifiques qui disent la fin de la crise sanitaire, c'est pour l'été 2022. L'été 2022. Alors qu'avant, on nous disait on va s'en sortir durant l'été 2021. Bon, je ne veux pas faire toute l'émission là-dessus, mais Douce Blasi dit exactement la même chose. Dans le journal du dimanche, il propose de recruter 15 000 supplétifs pour faire un grand plan de tests massifs. Et Madame Hill nous donne la solution. Ce sont les tests salivaires que notre haute autorité de santé en France, tout est haut, tout ce qui ne marche pas d'ailleurs est haut. Ils ont mis un an pour l'autoriser, alors que c'était autorisé à Nazi depuis longtemps. Alors écoutez-moi Jacques, c'est très simple. Le facteur dépose un tube dans votre boîte aux lettres. Vous crachez dans le tube. Le facteur reprend le tube et dans les 48 heures, vous avez le résultat. Et vous recevez, si vous êtes positif, vous avez une lettre avec des instructions d'isolement qu'il faut appliquer à la lettre. Et Madame Hill dit, on fait ça en suivant la trace du virus dans les eaux usées et on combat le virus immeuble par immeuble, maison par maison. Et le professeur Raoult de l'IHU de Marseille dit « Une épidémie, ça se combat comme le Viet Minh a combattu l'armée américaine, c'est-à-dire maison par maison, village par village. » Voilà ce qui serait une stratégie sanitaire. Mais aujourd'hui, la France n'a pas de stratégie sanitaire et nous allons dans le mur. Alors, vous avez, excusez-moi d'être un peu long, mais vous avez hier des prévisions de l'Institut Pasteur Et j'avais commenté le 29 janvier, nos auditeurs pourront retrouver le podcast, puisque nous avons maintenant une belle collection de podcasts, les chiffres qui montrent que notre système hospitalier va passer au-dessus de ce qu'a été la première et la deuxième vague, ça c'est pour le mois de mars, nous y allons tout droit, et derrière, le risque, c'est que les souches qui sont rétives au vaccin, par ce mécanisme de la sélection des espèces, cher à Darwin, finissent par l'emporter et mettent en l'air toute notre campagne de vaccination. Voilà, j'étais un peu long, mais j'espère avoir été clair. Si vous me permettez un mot pour conclure, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est le fait qu'il n'y ait aucun débat en France. Actuellement, le Conseil scientifique a pris un gros coup sur la tête. Il a peur. Il a peur d'être humilié. Donc, les épidémiologistes se taisent. Ils n'en pensent pas moins. Et la presse éditoriale, écrite et parlée, dit que Macron est un génie parce que, finalement, il n'a pas écouté les scientifiques et qu'il va passer par un trou de souris. Alors ça porte un nom, et c'est un sujet dont vous êtes le spécialiste, vous, Jacques Laverne, ça s'appelle le populisme. Voilà, j'ai terminé.
Oui, nous partageons parfaitement cet avis. Est-ce que vous avez vu, Maxime, cette note publiée le 23 février par la Banque de France qui nous disait que finalement… l'endettement net des entreprises n'est pas si dramatique que ça, puisqu'il n'aurait connu une hausse que de 0,8%, alors que la dette brute, elle, s'est envolée à hauteur de 13%, puisqu'on est à 217 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Alors non, je ne l'ai pas vu, mais quelle est la conclusion ?
La conclusion, alors, c'est que finalement, ça aurait pu être pire. La conclusion, oui, c'est que d'accord, les entreprises ont serré les dépenses, qu'elles ont effectivement, elles se sont endettées de 17 milliards parce qu'elles ont souscrit au PGE, c'est-à-dire au prêt garanti par l'État, oui, dont beaucoup ont souscrit tout simplement parce qu'elles n'en avaient pas un usage immédiat, mais elles préféraient l'avoir comme matelas de sécurité, et qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une dette des entreprises beaucoup plus importante. Mais il y a un bémol à ça.
On parle bien de l'année 2020.
Oui, on parle de l'année 2020, mais il y a un bémol quand même là-dessus, c'est que la note de la Banque de France ne prend pas en compte ce que les entreprises doivent à l'URSSAF du fait des reports de cotisations ou au Trésor public. Et là, c'est quand même extrêmement ennuyeux parce que nous savons que maintenant, URSSAF et Trésor public vont commencer à récupérer cette créance et que c'est souvent la récupération de ces créances qui provoque le dépôt de bilan et une procédure collective ou malheureusement une liquidation sèche sur l'audience.
Très bonne remarque. Et dans la ligne de votre remarque, est-ce que la note de la Banque de France prend en compte le fait que les crédits sont moratoriés, les PGE sont moratoriés, c'est-à-dire qu'ils sont suspendus jusqu'en mars 2022, en tout cas pour les commerces qui sont fermés. Alors, si on considère que ce qui est moratorié n'existe pas, effectivement, on va aboutir à la conclusion que tout va bien, mais on sera rattrapé par la réalité un peu plus
tard. Oui, on va être rattrapé par la réalité. C'est pour ça que cette note, alors, bon, vous la regarderez parce que vous serez beaucoup mieux à même que moi de la commenter, mais il faut quand même rappeler que les cotisations sociales reporté s'élève à 25,6 milliards d'euros et les reports fiscaux sont de l'ordre de 3,6 milliards d'euros. Quand tout ça va tomber, j'ai peur que l'endettement net des entreprises, qui n'aurait augmenté que de 0,8%, ce ne soit pas forcément une si bonne nouvelle que cela.
Oui, enfin, on sait que l'endettement des entreprises françaises est très élevé. Vous l'aviez signalé vous-même dans une émission de 2019 et les organismes internationaux le signalent aussi. Donc, Ne nous abandonnons pas au déni.
Non, voilà. Ni à l'optimisme, Béa, on voit où ça nous mène. Est-ce que vous voulez, Maxime, qu'avant de rentrer dans le dur de ces mots pipés dont vous allez nous parler, dette, inflation, croissance, etc., qui font qu'on n'a pas une saine appréciation de la réalité, est-ce que vous voulez que nous fassions la première pause musicale, celle que vous avez choisie ?
Ah oui, avec plaisir, oui.
Frank Sinatra ?
Oui, j'ai choisi une chanson qui est « My Way ». C'est un homme qui est à la fin de sa vie et qui dit « Dans ma vie, j'ai fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait le maximum, j'ai fait l'essentiel. » Et « My Way », ça veut dire « mon chemin ».
Nous l'écoutons, Frank Sinatra.
And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Voilà, c'était la première pause musicale, le choix de mon complice Maxime Maury, Frank Sinatra, My Way. Alors Maxime Maury, revenons sur ce que j'annonçais juste avant cette pause, le piège des mots que vous avez appelé pipés. Alors pourquoi pipés? Quels sont ces mots et pourquoi sont-ils pipés?
Oui, alors il faut que j'évite d'être trop long. Alors parlons de l'inflation, parlons de la dette et parlons de la croissance. Chacun de ces mots actuellement est pipé, dans le sens où nous nous racontons collectivement une histoire à nous-mêmes. Alors d'abord l'inflation. L'inflation, vous avez cette semaine plusieurs économistes, éditorialistes des Échos ou sur la chaîne France Info, Marc Touati, qui nous disent « l'inflation risque de redémarrer et nous risquons d'avoir assez rapidement une inflation à 3-4% alors qu'elle est actuellement de 1%. » Dans le fond, vous avez parfaitement compris que cette crise a été gérée en monétisant la dette. C'est-à-dire qu'on a fait de la dette en masse et on l'a transformée en monnaie. Cette quantité de monnaie s'est accrue de 70% en 2020, alors que dans le monde, alors que la production mondiale a chuté de 5%. Donc, plus de monnaie et moins de production, c'est forcément plus d'inflation à terme. Alors, l'inflation, nous l'avons déjà sous les yeux en ce qui concerne les actifs. Quelques chiffres, le prix de l'immobilier à Paris a augmenté 3 fois plus vite que les salaires depuis 10 ans. Le prix des maisons dans l'Union européenne a augmenté de 35% depuis 10 ans. Et la bourse de New York, alors je ne cite pas la bourse européenne parce que c'est un peu au-dessous, mais la bourse de New York, les différents indices sont aujourd'hui 25% au-dessus du niveau de début 2020, avec un décalage complet par rapport aux espérances de profit. Donc ça, c'est de l'inflation déjà, mais c'est de l'inflation des actifs. Donc la question, c'est quand est-ce que cette inflation va se traduire par une augmentation des prix à la consommation qui impacteront votre retraite, qui n'est pas indexée, la mienne non plus? Eh bien, la réponse, c'est « je ne sais pas », mais je vois que des pénuries sont en train de se former. Les entreprises aujourd'hui ont une augmentation de leurs coûts sur, par exemple, les semi-conducteurs, les puces électroniques. Vous l'aviez cité dans une brève lors d'une émission précédente, le bois, les conteneurs pour le transport international et les matières premières, parce que la crise sanitaire a créé des goulets d'étranglement. Et je me dis que lorsque les restaurants rouvriront, à une date qui est totalement inconnue, j'ai des amis toulousains qui pensent que ça ne rouvrira pas avant le mois de septembre, au moins 30% d'entre eux disparaîtront, au moins 30%, et forcément vous aurez un manque de concurrence, au moins pendant les premières semaines, et une augmentation des prix. Donc, le premier mot pipé, c'est inflation, parce que nous avons créé de la monnaie en quantité et nous ne voulons pas en voir les conséquences. La conséquence, c'est que l'inflation reviendra à une date que je ne peux pas prévoir et dans des proportions que je ne peux pas prévoir. Le deuxième mot pipé, c'est le mot croissance. Là, je vais être plus bref et peut-être je m'attarderai un tout petit peu sur la dette pour dénoncer les gesticulations auxquelles on assiste depuis quelques jours. La croissance, bien sûr, ça serait la solution, mais nous savons que la limitation des émissions de gaz à effet de serre nous empêche d'avoir une croissance débridée, et même si on veut diviser par 2 d'ici à 2030, nous contraindra à une croissance très faible. Donc, il n'est pas juste de dire la croissance va nous permettre de rembourser la dette. Alors, venons-en à la dette. Et il y a ceux qui disent qu'il faut effacer les dettes. On sait très bien que, premièrement, ce n'est pas possible juridiquement et que, deuxièmement, ça aurait des conséquences très graves parce qu'en fait, les créanciers s'enfuiraient. Bon, on en a un peu parlé, je crois, déjà dans une émission précédente, donc je ne veux pas y revenir. Mais là, nous avons M. Bayrou qui nous dit on va reporter les dettes à 2030. Mais c'est absurde. La dette française, elle est à 8 ans. Tous les jours, on paye des échéances de dette. Il y a des échéances à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 30 ans. Et la moyenne est à 8 ans. Donc, la dette Covid, c'est une dette que nous allons rembourser naturellement en 2028. Donc, le fait que M. Bayrou nous dise on va reporter à 2030 n'a pas beaucoup de sens, sauf s'il veut dire qu'il arrête toutes les échéances d'ici 2030. Et à ce moment-là, je lui demanderai de nous expliquer comment le député Bayrou, qui avait voté la loi du 4 août 1993 sur l'indépendance de la Banque de France, fera pour donner des ordres à la Banque de France pour lui dire « vous devez arrêter vos échéances ». Donc, vous voyez, on est en train de jouer à se raconter des histoires alors que nous avons un énorme effort collectif à faire. Et sur les solutions, vous connaissez mes convictions, je peux les exposer à nouveau, mais je ne veux pas être trop long. Voilà. Donc, je pense que pour le moment, on est beaucoup dans le déni avec ces trois mots, croissance, dette et inflation.
Est-ce que ça ne veut pas dire que le gouvernement et le président de la République, puisque c'est quand même lui qui décide au final, qui décide de tout et qui fait ce qu'il veut comme il veut, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un manque d'explication, un manque de pédagogie envers la population, parce que nous sommes là sur des questions extrêmement complexes, mais qui peuvent quand même, et vous venez de le faire très clairement, être expliquées aux gens, pourquoi le gouvernement ne le fait pas ?
Oui, je pense que le gouvernement ne le fait pas. Bon, c'est peut-être pas son rôle d'ailleurs de le faire, c'est plutôt le rôle des pédagogues, économistes, épidémiologistes, on a parlé de la crise sanitaire. Je pense qu'en fait, nous sommes dans le populisme. Et le populisme, ça consiste à raconter des histoires aux gens pour les flatter et pour ne pas avoir des réactions hostiles. Et puis, nous avons des élections en vue en 2022. Je crois que l'explication, c'est ça, c'est que la vérité n'est pas bonne à dire. Et je ne me prends pas pour un Cassandre. Mon but n'est pas de faire peur. Mon but est de dire les vraies solutions, c'est la réduction des inégalités. Ce sont des impôts écologiques qu'il faut positionner au niveau fédéral européen. C'est de renforcer l'échelon stratégique européen et c'est d'appeler notre peuple à l'effort. Et de ce point de vue, je partage Mario Draghi, je partage complètement l'opinion de Mario Draghi qui distingue la bonne et la mauvaise dette. Alors, on va peut-être en parler dans un moment. Donc, s'endetter pour investir, aujourd'hui, oui, il faut le faire, mais s'endetter pour payer les retraites, non, c'est pas une bonne stratégie.
Tout ça est quand même très, très inquiétant, on le sent au travers de vos explications. On voit pour la crise sanitaire où il n'y a pas véritablement de transparence, et vous l'avez dit encore une fois, on raconte des histoires aux gens, on ne les met pas devant la réalité et donc devant leurs responsabilités. Il en va de même pour l'économie, il est bien évident que si on ne paye pas ses dettes, et bien, peut-être certaines dettes auprès de la BCE, c'est un peu différent, mais si vous ne payez pas la dette des créanciers hors BCE, j'imagine que nous n'aurons plus un sou lorsque nous allons nous présenter sur le marché d'emprunt pour financer la marche du pays. Donc tout ça me semble, c'est évident, c'est du bon sens.
Oui, alors ce que vous dites là, c'est ce que le président Macron a dit dans un dîner avec Jean-Luc Mélenchon, qui s'agitait en disant « il faut annuler la dette ». Macron lui a répondu « mais si vous dites ça, les créanciers ne prêteront plus et les taux d'intérêt vont augmenter de 200 ou 300 points de base et nous serons en faillite ».
Comment expliquer qu'on en soit toujours à se poser cette question, cette sempiternelle question qui revient en permanence? Il y a des tables rondes dans toutes ces chaînes de télévisées là qui émettent en permanence, que plus personne ne regarde, c'est du brouhaha. Comment se fait-il que les gens ne comprennent pas, nos concitoyens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne l'imagine, ou que certains veulent le croire, comment se fait-il qu'on ne comprenne pas que si on ne rembourse pas ses dettes, il n'y aura plus personne pour vous prêter, et que nous vivons à crédit depuis des dizaines d'années? Donc comment le système pourrait-il continuer?
Oui, mais peut-être que nos concitoyens le comprennent en fait, parce que regardez sur la crise sanitaire, c'est un autre sujet, mais 38% seulement font confiance au gouvernement. Donc, ils voient bien que nous n'avons pas de stratégie sanitaire. Bon, je pense que pour la dette, c'est pareil. Donc,
nous n'avons pas de stratégie sanitaire, on n'a pas vraiment de stratégie financière. C'est extrêmement inquiétant.
Que M. Bayrou nous dise quels sont les investissements qu'il faut financer avec le plan européen dont nous avons vu la dernière fois qu'il n'arrivera pas à échéance avant la fin de l'année. Voilà le rôle du commissaire au plan. Maintenant, nous dire qu'on va cesser de rembourser la dette jusqu'en 2030, mais il n'a absolument pas le pouvoir de mettre cette mesure en application, puisqu'encore une fois, la BCE et ses filiales nationales ne sont pas aux ordres de M. Bayrou. Et quand bien même un Conseil européen déciderait ça, d'abord, je ne vois pas un Conseil européen décider ça, les traités européens ne permettent pas de le faire. Donc, je ne comprends pas pourquoi on perd son temps à brasser des chimères. Voilà. Alors qu'il y a du travail à faire.
Oui, il y a du travail, mais il n'est pas fait. Moi, je suis de plus en plus inquiet. Depuis qu'on fait cette émission, mon inquiétude monte parce qu'on se rend compte qu'entre la réalité, qu'entre les mécanismes économiques, qu'entre le bon sens et ce qui se passe dans le pays, la manière dont il est dirigé, il y a un fossé absolu. Et aucun des hommes politiques, dans l'opposition, nous n'entendons pas un rappel à ces grandes règles, par exemple, que peut-être M. Macron, pour des raisons bassement électorales ou parce qu'il a peut-être un peu de mal aussi à voir comment l'avenir va se passer pour lui, qu'il raconte des fariboles, à la limite, pourquoi pas, mais comment se fait-il que d'autres hommes politiques n'aient pas un discours plus responsable en rappelant ces grandes vérités?
Oui, alors là, nous rentrons dans une émission politique. Notre système politique.
L'économie politique, tout ça, c'est lié. C'est très surprenant de voir aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, et je crois que ce titre était excellent, les mots pipés qui nous masquent la réalité. Mais bon, il faudrait démystifier tout cela une bonne fois pour toutes et que tout le monde l'ait compris, beaucoup l'ont compris, je pense, mais qu'on aille dans un sens beaucoup plus logique, beaucoup plus ouvert que ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition en France, c'est vrai que c'est politique, mais il n'y a pas d'opposition. Aucun homme politique aujourd'hui n'a la stature de nous dire « attention, nous sommes dans un moment délicat », c'est ce que vous avez traduit tout à l'heure, et il faut appeler à l'effort. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui. Et celui qui va appeler…
Alors vous m'amenez à faire un commentaire politique, je le fais bien volontiers en vous disant qu'aujourd'hui, notre système politique est dominé par le populisme. Le président Macron, dont le populisme n'est pas l'ADN à l'origine, insensiblement depuis 2019 avec la crise des Gilets jaunes, a glissé vers le populisme. Et puis ensuite, il y a les deux partis populistes qui s'allieront un jour, d'une manière ou d'une autre, le Front National et la France Insoumise. Et entre les deux, il n'y a rien. Les anciens partis de gouvernement ont disparu. Écoutez, faisons un petit joke pour… un peu d'humour. Bon, les Républicains en sont à attendre le retour de Sarkozy. Donc, vous voyez, vous aviez une page dans Le Monde entière là-dessus. Et quant à la gauche, elle est incapable de s'unir pour offrir une alternative. Et donc, effectivement, nous sommes menacés par le populisme.
Bien, écoutez, on va essayer de digérer tout cela et au cours de notre deuxième pause musicale, ça va vous relaxer. Vous allez voir, moi je vous ai choisi le trio numéro 2 de Schubert, qui est un trio en mi bémol pour piano et cordes. C'est de la musique de chambre lyrique romantique, violon, violoncelle, piano. Et Franz Schubert a composé ça, ce n'est pas nouveau, mais c'est tout à fait apaisant, ça va nous permettre d'essayer de remettre un peu nos idées en place. Il a composé ça en 1827. Écoutons le trio numéro 2 de Franz Schubert. Schubert son trio numéro 2, un peu de musique, comme le diraient certains, dans ce monde de brut et dans ce monde compliqué. Vous avez parlé, Maxime, de déni, et puis vous avez évoqué quelques pistes, fédération européenne, taxe écologique, réduction des inégalités. Ça veut dire qu'il faut changer de société, finalement. Peut-être
que
vous pourriez nous développer un peu ces points.
Oui. Bon, je pense que face à la dette, nous serons obligés d'augmenter les impôts. Mais je ne crois pas que les augmenter à l'échelle nationale soit une bonne idée, pour deux raisons. D'abord parce que ça porterait atteinte à la compétitivité du pays qui le ferait. Et deuxièmement, parce que nous avons besoin d'une forte coordination continentale pour résoudre la crise climatique. Et je suis complètement en ligne avec les 15 prix Nobel qui demandent une taxe carbone, y compris une taxe carbone aux frontières. D'ailleurs, la présidente de la Commission défend cette idée. Il y aura d'autres taxes écologiques à concevoir. Et puis, il faut réduire les inégalités parce que dans une société qui aura de moins en moins de croissance et qui doit porter une dette énorme, la seule marge de manœuvre est dans la réduction des inégalités. Alors, il y a l'écrêtement des grosses rémunérations, il y a la limitation des dividendes, il y a la réorganisation du management stratégique des entreprises en associant davantage les parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les clients, les fournisseurs, les collectivités territoriales et pas seulement les actionnaires. Il y a probablement la nécessité d'une taxe sur l'épargne et d'une taxe sur les transactions financières. Voilà quel est le chemin pour arriver à passer entre ces deux obstacles que vont être d'un côté l'inflation et la réduction de la croissance. Mais ma conviction, c'est que cela ne peut se faire qu'à l'échelon d'une fédération européenne. Et tout à l'heure, vous allez me demander de présenter un livre. Alors, je peux peut-être présenter le livre de Valéry Giscard d'Estaing, Europa, où il propose la création d'un directoire fédéral européen. Voilà pour faire court, hein, mais il faudrait développer.
Toutes ces idées, ces propositions sont effectivement extrêmement intéressantes et mériteraient d'être creusées, mais nous savons qu'en politique, tout est très long. Même si on allait dans ce sens avant que les 27 se soient accordés sur un nouveau modus vivendi, il va falloir des mois, et quand je dis des mois, je fais preuve d'un optimisme béat, donc on va dire des années. Est-ce que nous avons le temps devant nous pour effectuer ce genre de réflexion, de négociation et de réforme?
Alors moi, je suis un homme de l'urgence, c'est-à-dire que je crois que nous sommes en situation d'urgence. Je parlais de l'inflation tout à l'heure. Bon, vous ne m'avez pas relancé. Quel est le tempo? Je ne sais pas. Si l'inflation arrive assez vite, les taux d'intérêt peuvent remonter assez vite. Et la dernière fois, vous avez parlé des États-Unis et vous avez dit que une augmentation des taux d'intérêt était dans les tuyaux, quasiment, parce que si l'inflation monte à 3%, ils seront obligés d'augmenter leur taux d'intérêt. Et là, effectivement, nous pouvons nous trouver dans une situation difficile. Je crois que ça sera lent, mais ce qui me déroute, c'est la difficulté que nos dirigeants ont d'anticiper. Et vous voyez, on a parlé la dernière fois du plan européen. J'ai lu sous la signature de Pisani-Ferry que la première tranche du plan européen de 750 milliards, pour la France, ça serait 15%. 15% seulement, pas avant la fin 2021. Donc, nous voyons que nous sommes très, très lents dans nos réactions. Et effectivement, c'est ça qui m'inquiète. Nous n'anticipons pas assez. Et pour moi, une fédération européenne, c'est un grand projet que nous devrions avoir dès maintenant.
Vous avez évoqué une manière de combattre le virus. Finalement, vous avez dit qu'il faut le combattre avec la méthode asiatique qui a fort bien marché, hein, puisque les Chinois l'ont éradiqué et un certain nombre de pays asiatiques aussi l'ont éradiqué. Mais pour cela, il faudrait ce que j'appellerais l'adhésion de la population. Est-ce que dans les pays asiatiques, les traditions politiques, les traditions sociales, et surtout une relative absence de démocratie, on va le dire comme ça, n'aide pas le pouvoir à mettre en place des mesures draconiennes dont on a vu l'efficacité, mais qu'on arriverait avec beaucoup de mal à instaurer en France et peut-être dans d'autres pays d'Europe.
C'est-à-dire qu'il s'agit de présenter les mesures comme un investissement pour se débarrasser vraiment de l'épidémie, alors qu'on les présente toujours comme punitives. Et effectivement, si c'est punitif, ce n'est pas motivant. Mais pour répondre à votre question précisément, la Chine n'est qu'un pays. J'ai cité tout à l'heure, je ne vais pas reprendre la liste, mais de nombreux pays qui ne sont pas des dictatures. Alors, il paraît que quand on dit ça au président Macron, il dit « mais la France n'est pas une île ». Mais la Thaïlande n'est pas une île, le Laos n'est pas une île, la Corée n'est pas une île, le Vietnam n'est pas une île. Donc, nos dirigeants calent devant l'effort parce que cet effort demanderait d'expliquer au peuple, de l'entraîner dans l'effort, et finalement, ils y répugnent. Donc, ils préfèrent des stratégies d'adaptation où on suit le virus. Bon, alors là, vous allez voir, on va reconfiner par département, puis à la fin, il y aura de nouveau un confinement général, c'est pratiquement certain. Mais le problème, c'est que c'est un confinement général qui ne débouchera sur rien et sur la poursuite indéfinie de la crise jusqu'à l'été 2022. C'est ce que disent les scientifiques. Et donc, la réponse à votre question, c'est appeler à l'effort, appeler à la vision collective, et c'est ça qu'on ne sait pas faire.
Oui, quand vous avez une vision à 5 ans pour vous faire réélire, et maintenant à beaucoup moins de 5 ans, nous le savons, puisqu'en 2022, nous reviendrons aux urnes nationalement, je ne sais pas si c'est possible de prendre suffisamment de hauteur et de dire aux gens des choses, un message finalement désagréable, mais qui pour autant retraduit la réalité. Là, nous sommes un peu dans du politique, et c'est une question moi, que je traiterai certainement avec l'équipe de « Ça va mieux », de savoir si les démocraties telles que nous les vivons aujourd'hui en Europe sont l'outil qui va nous permettre de faire face aux défis qui vont se poser à nous, tant sur le plan sanitaire, nous le voyons aujourd'hui, que sur le plan environnemental dans les années qui arrivent.
Oui, et puis il y a aussi, on parlait tout à l'heure de McKinsey, des fonctionnements de notre État. Regardez les tests salivaires. Bon, ce que je vous ai expliqué avec le facteur qui dépose un tube dans votre boîte, Madame Hill, avec une ténacité extraordinaire, a expliqué ça pendant des mois. Sauf que le Haut Conseil de la Santé publique, la Haute Autorité de Santé, vient à peine d'autoriser les tests salivaires. Elle dit qu'ils ont peur de leur ombre. Donc, en fait, maintenant, les tests salivaires vont être mis en œuvre dans les écoles. C'est-à-dire que si une école présente un cas, on va faire des tests salivaires et donc on va se donner une capacité de décision beaucoup plus offensive. Mais on a été très lent à décider d'autoriser. Et là, on trouve le manque d'agilité dans le fonctionnement de notre État. Et c'est encore un autre sujet, hein. C'est l'anticipation, le manque d'agilité, et c'est l'ensemble qui crée des capacités d'adaptation trop lentes et trop défensives.
Alors, prenons un peu de partir en voyage, pas bien loin, partons en Italie, si vous le voulez bien, en Italie où on a salué l'arrivée d'un nouveau président du Conseil, Mario Draghi, qui n'est un inconnu pour personne, hein, puisque nous l'avons vu à la tête de la BCE, nous l'avons vu sauver l'euro, pas l'Europe, mais l'euro, ce qui est déjà bien. Ce n'est pas qu'un technocrate, hein, Mario Draghi, c'est aussi un homme de terrain, c'est un homme qui aime profondément son pays. Et plusieurs commentateurs de la botte l'ont qualifié de général de Gaulle italien. Ce n'est pas rien quand même, hein. Il a un sacré défi. Alors, l'Europe va apporter à l'Italie 10% de son PIB sur 2 ans, ce qui fait à peu près dans les 209 milliards d'euros, je crois, qui sont peut-être la dernière chance ou la dernière carte dont va disposer l'Italie. Mais, cette dernière chance italienne est également un enjeu majeur pour l'Europe, parce que l'Italie est quand même la troisième puissance économique de l'euro, et s'il y a échec, eh bien, nous pourrions craindre un effondrement en cascade. D'où l'appel à Mario Draghi, qui est considéré comme l'homme providentiel. Alors, c'est un trait qui revient souvent dans la politique italienne, quand tout le monde est divisé, on fait souvent appel à des personnalités de ce type. Le nouveau président du Conseil a pour lui trois choses. D'abord, il a une stature, une capacité de leadership très forte, tant dans son pays, où il est respecté, qu'au niveau international. Ensuite, il a, peut-être ce qui nous manque, une vraie stratégie, et puis il bénéficie du soutien politique, parce qu'aujourd'hui, l'Italie est toujours traversée par des courants contraires et opposés, mais aujourd'hui, on a un alignement des planètes, on a à la fois une union nationale autour de Mario Draghi, et puis on a le soutien de l'Europe, deux éléments qui sont très rarement réunis, qu'on n'avait pas toujours vus. Donc, il y a quand même des motifs d'optimisme. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. La constitution italienne, par exemple, a été récemment révisée. On a réformé le parlementarisme du pays. Le capitalisme familial y est extrêmement vigoureux. Et l'État a gagné en efficacité et ses finances, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce qu'on a une image d'Épinal de l'Italie et de ses finances, eh bien, ses finances sont dans un état plutôt sain, en tout cas bien meilleur que celle de la France, ça c'est clair. Et puis l'épidémie a révélé, il faut bien voir aussi des aspects positifs dans l'épidémie, elle a révélé un facteur nouveau, c'est la résilience des populations et des entreprises. Et puis ce pays, cette Italie, a des atouts qu'elle n'avait pas il y a quelques années. Il y a d'abord cette discipline budgétaire qui est absente en France. Le budget italien hors service de la dette est excédentaire. Alors vous me confirmez.
Alors, juste un chiffre, Jacques, pour ce que vous dites là est vraiment très intéressant. En réalité, ils ont un excédent avant paiement des intérêts qui représente 5% du PIB, alors que nous, nous avons un déficit structurel de 5%. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais la situation budgétaire de l'Italie est fondamentalement meilleure que la nôtre.
Ce qui veut dire qu'il y a une discipline budgétaire qui a épargné au pays quand même des crises de finances publiques. Ça se réduira peut-être cet excédent dans l'avenir, mais aujourd'hui, tout cela est très sain. Les entreprises italiennes, pour venir à elles, font preuve de force, font preuve de résilience significative. Il faut savoir qu'en valeur absolue, la production industrielle de l'Italie est supérieure à celle de la France.
Absolument, absolument.
C'est le deuxième pays industriel de l'UE derrière l'Allemagne. Ils ont un excédent commercial qui est là depuis longtemps. Il y a une réactivité, ils ont des pertes de productivité, ils ont d'autres problèmes au niveau de la démographie, où il y a de moins en moins de jeunes et surtout des jeunes qui partent, qui quittent le pays. Mais bon, le tissu d'entreprises moyennes privées est très dynamique. Donc, il y a trois enjeux fondamentaux pour la suite que l'Italie nous rappelle, à mon sens. D'abord, il y a la dette, et en matière de dette, et vous allez me dire si ce que je dis est juste, ce n'est pas le pourcentage du PIB qui est le plus important, mais c'est l'usage qu'on en fait.
Absolument.
Ben, oui, vous rejoignez, Maxime. Ensuite, ce qui va se passer en Italie va être crucial pour l'Europe, et nous avons tous, je le disais en démarrant cette présentation, que nous avons tous intérêt à ce que ça fonctionne. Et puis, très important pour la France, nous avons des pathologies absolument comparables à l'Italie, on peut en convenir, on l'avait assez dit à ce micro, mais nous avons surtout moins de flexibilité et puis nous n'avons aucun Mario Draghi disponible chez nous, ce qui est quand même un problème. Donc, buona fortuna a Mario Draghi et ai nostri amici italiani et partners italiani. Voilà ce que je voulais dire sur l'Italie, on va observer tout ça de très près. L'Italie.
Oui, alors, bravo pour cet exposé. Est-ce que vous me permettez deux réactions? La première, l'Italie, il faut prendre le sujet de manière plus générale sur les divergences dans la zone euro. Mes étudiants m'ont mis sous les yeux un graphique passionnant qui montre que par rapport aux revenus moyens de la zone euro, les pays du nord de l'Europe, depuis 10 ans, ont vu leurs revenus augmenter de 4 000 euros et les pays du sud l'ont vu baisser de 6 000 euros. Et singulièrement, en ce qui concerne l'Italie a vu son revenu par habitant baisser de 15% depuis 10-15 ans. Et donc, ça manque dans cette conviction qu'il faut que la monnaie unique se transforme en une union de transfert et en une fédération européenne pour opérer cette redistribution des moyens. Quant à Mario Draghi, Savez-vous que le président Macron lui a remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à l'Élysée devant une dizaine de personnes et sans la moindre publicité. Alors, le président Macron a énormément d'admiration pour Mario Draghi. Vous savez que le fameux « quoi qu'il en coûte » de Macron, c'est le « believe me, whatever it takes » de Draghi de 2012, au moment où il a sauvé l'euro en disant qu'il interviendrait sans limite. Alors simplement, la grande force de Mario Draghi, c'est ce qui fait, à mon avis, pardonnez-moi d'être un peu insolent, mais la faiblesse du président Macron, c'est que Draghi est très silencieux. Les deux sont des élèves des jésuites, l'un à Amiens, l'autre à Rome. Donc les deux connaissent la devise des jésuites. Est-ce que vous connaissez la devise des jésuites, Jacques ?
Non, mais je vais l'apprendre, je crois.
Non, mais c'est tout savoir, beaucoup dissimuler et un peu corriger. Et Mario applique cette devise à la lettre. C'est-à-dire, c'est un homme silencieux qui ne s'expose pas inutilement, qui ne parle pas inutilement, qui connaît parfaitement la vanité de la parole et qui dirige ses affaires d'une manière remarquable. Alors, à la BCE, la manière dont il a réussi à faire l'unanimité autour d'une politique totalement décoiffante par son audace et je dirais, non conforme au dogme allemand, est extraordinaire. Et il le doit à son silence et pas à sa parole, à sa manière qu'il a de manœuvrer, et puis aussi, je dirais, à sa très grande intégrité morale, car c'est un homme d'une très grande intégrité qui ne recherche pas d'intérêt personnel. Voilà, donc je voulais à cette occasion lui rendre hommage, parce que sans Mario, l'euro aurait disparu, et si l'euro avait disparu, eh bien, nous serions ruinés. Particulièrement les retraités.
Eh bien, bienheureux Italiens qui ont un Mario Draghi, nous sommes, nous, on l'a compris, un peu plus nus que les Italiens sur ce plan-là. Nos deux dernières rubriques, Maxime, peut-être un mot à dire sur l'économie en Occitanie ?
Oui, alors, j'appelle nos auditeurs qui se passionnent pour l'Occitanie à regarder l'enquête de conjoncture de la Banque de France. Alors, c'est très simple, tendance régionale, et ça va apparaître, et après il y a Occitanie, enfin il y a toutes les régions, et je voulais vous commenter quelques chiffres. La Banque de France publie des graphiques où elle montre le niveau de l'activité par rapport à la normale, par rapport à ce que les chefs d'entreprise jugent normal dans l'industrie et dans les services. Alors dans l'industrie, nous sommes à 83% de la normale, mais le national est à 92%. Donc, vous voyez, nous sommes très nettement en dessous et on se répète ou on se contredit dans la vie. Donc, je me répète, c'est à cause de l'aéronautique qui elle-même est à 69% de la normale, donc il manque 30 points et c'est ça qui plombe l'Occitanie. Quant aux services marchands, ce sont les graphiques qui sont au-dessous, là, nous sommes dans la normale nationale, c'est-à-dire nous sommes à 80% de la normale, et le national est à 81%, donc nous sommes en phase avec le national. Et il y a un point positif, c'est le bâtiment. Le bâtiment a des niveaux de commandes qui sont inférieurs au début, avant la crise sanitaire, mais supérieurs au niveau de 2018, donc à des niveaux encore très, très, très honorables. Voilà la petite synthèse que je vous pouvais faire.
Et rappelons que la campagne électorale est lancée à présent. Hein, Carole Delga est en train de composer sa liste. Antoine Maurice, pour les Verts, qui s'était présenté comme changeur de M. Boudin, s'est déclaré aussi qu'il veut faire cavalier seul. Et il semblerait que le Front National ait désigné M. Garot, que nous avons connu à Toulouse comme juge d'instruction en son temps. C'est un ancien magistrat. Qui devrait être le principal opposant à Carole Delga dans cette aventure. Dernière rubrique, quelques conseils de lecture ou autre. D'ailleurs, on ne se limite pas à la lecture, mais pour moi, ben, puisque j'ai la parole, je la garde, Maxime, ce sera la culture. Un petit livre, pas très cher, 5 euros, donc vous voyez, c'est très abordable, SOS Culture aux excellentes éditions indigènes que l'on cite souvent, écrit par Serge Regour, qui est le président de la Commission Culture de la région, et que je vais recevoir très prochainement, et peut-être d'ailleurs la semaine qui arrive, dans un cap-cap pour parler de la culture qui est son domaine de prédilection. Et puis peut-être aussi un autre livre qui n'est pas très gros, mais qui est du philosophe Bruno Latour et universitaire Bruno Latour, qui s'appelle « Où atterrir ?» aux éditions La Découverte. Un petit livre, mais dense, dans lequel, d'un essai, dans lequel Bruno Latour veut relier trois phénomènes que les commentateurs ont déjà repérés, sans toujours d'ailleurs voir ce qui les unit. C'est d'abord la régulation qui va donner au mot globalisation un sens de plus en plus péjoratif. C'est ensuite l'explosion, et ça rejoint un peu votre discours, Maxime, de plus en plus vertigineuse des inégalités. Et enfin, l'entreprise systématique pour nier, toujours cette fameuse manie de nier que nous évoquions tout à l'heure, avant de démarrer l'émission, de nier l'existence de la mutation climatique. Bruno Latour, où atterrir, comment s'orienter en politique. Voilà, Maxime, pour ce qui était de mon conseil. Est-ce que vous en avez de votre côté un?
Oui, j'en ai deux. Juste une réaction sur les inégalités, puisqu'on a parlé de l'inflation aujourd'hui. Les patrimoines français, les 10% de patrimoine français les plus riches, ont été multipliés par 3 en 10 ans. Donc, nous sommes dans une société où les inégalités s'aggravent à toute vitesse. Alors, moi, j'ai été très attiré par cette photo qui est parue dans les Échos. J'ai reconnu le gouverneur de la Banque de France qui a eu la gentillesse de venir me dire au revoir à Toulouse quand j'ai quitté mes fonctions. Et je vois assez d'une Europe qui rase les murs. Assez d'une Europe qui rase les murs. Alors, j'ai été ravi, je me suis jeté sur l'article et c'est une publicité pour son livre « Retrouver confiance en l'économie » paru chez Odile Jacob. Alors, ce qui m'a un tout petit peu déçu, monsieur le gouverneur, quand même, c'est que je m'attendais à ce que vous fassiez des propositions illustrant ce titre, « Assez d'une Europe qui rase les murs », auquel j'adhère, mais vraiment à 100%. Je n'ai pas trouvé dans l'interview vraiment de propositions, mais peut-être y en a-t-il dans le livre, et donc c'est un livre peut-être à voir. Alors, il y en a un que j'ai lu, parce que celui-là, je ne l'ai pas lu, je le cite, j'ai ce livre qui s'appelle « Connaître notre valeur, conversation sur l'énergie et le développement durable » entre Ernst von Weizsäcker, physicien allemand, député allemand, ancien président du Club de Rome, donc le Club de Rome, ça vous rappelle Denis Meadows, hein, et Daisaku Ikeda, qui est un bouddhiste japonais, et leur dialogue sur le développement durable et la crise énergétique est très intéressant. Il est en 8 conversations. Et ce que j'ai retenu, c'est que Weizsäcker nous dit qu'à condition d'augmenter régulièrement le prix de l'énergie, on peut multiplier l'efficacité énergétique par un facteur 5, mais à condition d'augmenter régulièrement le prix de l'énergie. Bon, voilà, c'est un ami qui m'a envoyé ce livre parce qu'il connaît ma passion pour la question écologique, et il faut que je lui réponde, donc je vais lui répondre après l'avoir lu.
Voilà, bien, merci pour ces suggestions de lecture. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, que nous avons peut-être un peu dépassée, mais ce n'est pas grave, nous avions beaucoup de choses à dire. C'était Economica, une émission de Maxime Maury et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Yanis Boudin, une émission dont vous retrouverez le podcast ainsi que ceux de toutes les autres émissions sur le site d'Esprit Occitanie. Et nous vous retrouverons le vendredi en 15 pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous.